Vous êtes sur RTL. Ils respectent les distances de sécurité. Ils ne font pas le pont, mais ils défont le monde dans RTL Soir. Épisode 37, Cyprien Sini.
Cyprien Sini, toute l'équipe, ça va Cyprien?
Impeccable.
Je suis content de vous revoir physiquement.
Aussi. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Hein.
Vous n'étiez pas là pendant deux mois.
Brice Dugénie est à la maison, il est confiné, il est en ligne avec nous. Je salue Brice, bonsoir. C'est
bonsoir.
Le numéro 37, on va défaire le monde. C'est jusqu'à 20h, bien sûr, l'actualité traitée avec rigueur, bonne humeur. Vos commentaires, vos réactions, la page Facebook de l'émission, le compte Twitter à disposition. Nous sommes le vendredi 22 mai de cette année 2020. Cyprien, voici le sommaire.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Alors pourquoi pas, mais où? En France, à l'étranger? Le gouvernement nous demande de rester au pays, mais l'Italie et la Grèce nous ouvrent grand leurs portes. Vous allez découvrir les dessous d'une bataille touristique intra-européenne. L'économie pour les nuls, vous vous demandez comment on a trouvé 500 milliards pour relancer la croissance alors que ça fait des années qu'on nous répète qu'il n'y a plus d'argent. Eh bien vous allez enfin comprendre, enfin j'espère. Évidemment, comme tous les vendredis, vous retrouverez le loser, le grand perdant de Céline Landreau. Et cette semaine, Céline, vous nous avez débusqué un magnifique raté.
Oui, on ira à Lyon où la ville manque apparemment d'appareils photo.
Le billet retour de Brice Dugénie ce soir. Vous revenez sur un des plus grands mystères de l'histoire de l'aéronautique, le vol MH370.
Oui, 6 ans après, que sait-on de la disparition du Boeing de la Malaysian Airlines?
Au menu également, plus essentiel que jamais depuis qu'on peut revoir des gens, vos 3 infos pour briller au dîner. La belle histoire de la semaine dans l'instant trop mignon, le palmarès de vos appels au 3210 dans le pronomètre. Et comme tous les vendredis, un cadeau. Et alors là, si vous avez des enfants, ou que vous en connaissez, il va falloir être attentif, hein, parce que on vous offre un très beau kit de pâte à modeler pour faire des glaces en pâte à modeler. Ouais, il y a les moules, les pots, bref, la totale. Le jeu, ce sera vers 19h40. On fait pas le pont et surtout, on défait le monde. Épisode 37, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Si vous avez des enfants que vous en connaissez.
Bah, si vous n'en avez pas et que vous n'en connaissez pas, restez quand même.
Restez quand même jusqu'à 20h.
Oui, mais le pâte à modeler, ça va être moins utile. Quoi.
Cyprien Sini qui vous accompagne jusqu'à 20h avec toute l'équipe qui vous informe, bien sûr. Tout ça avec le sourire, s'il vous plaît. Il surfe le matin du lundi au vendredi à 6h40 et juste avant 8h. Et le vendredi soir, rien que pour nous, c'est le surf de la semaine, les temps forts sonores des jours écoulés.
Et cette semaine, je vous préviens, ça va envoyer du what? Du gros son. Oui, en ce vendredi de pont, pas de politique, pas de polémique, pas de petites phrases, non, on s'aère. Hein. Faut dire qu'après avoir regardé le journal télé de nos voisins belges, je me suis dit que tout le monde avait vraiment besoin d'une pause fraîcheur. Écoutez plutôt.
Le centre anti-poison a reçu 15% d'appels en plus, essentiellement pour des incidents domestiques liés à l'eau de Javel.
Ah ouais, mais ils font quoi les Belges avec leur eau de Javel?
De l'eau de Javel dans son bain. Les appels concernant ce type d'utilisation ont été multipliés par 12.
Par exemple, ils ont essayé de nettoyer leurs courses, les fruits, les légumes, avec par exemple de l'eau de Javel.
Eh oui, à cause du coronavirus, ils se font des bains d'eau de Javel et ils passent les tomates sous l'eau de Javel. Faut vraiment que tout le monde se détende. D'ailleurs, pour ça, eh ben on n'a qu'à tous partir. En Allemagne! Formidable l'Allemagne qui a rouvert ses boîtes de nuit cette semaine. Grosse stuff en perspective. Bon, il y a des règles hein, quand même.
Interdiction d'ouvrir après 22h et surtout interdiction de danser.
Ah oui, quand même. Hein. La boîte de nuit qui ferme à 22h et où on ne danse pas. Alors c'est conceptuel, mais on me signale dans l'oreillette que c'est pas tout.
Il faut rester assis, ne pas oublier son masque. Alors les boîtes de nuit allemandes doivent se réinventer.
Ah, tu m'étonnes. Bah, la strip, elles vont surtout se réinventer en salon de thé ou en maison de retraite. Tiens d'ailleurs, à propos de maison de retraite, on pourrait leur envoyer le formidable maire de Poissy, Carl Olive aux Allemands. Oui, Carl Olive, K.O. pour les intimes, un maire qui prend soin de ses administrés à tel point que cette semaine, monsieur le maire est allé donner un concert à la maison de retraite des Ursulines. Si, si, je vous jure, c'est vrai, c'était un concert. Le maire arrive, sort les enceintes, branche le micro. Les résidents sont tous là, masques sur le visage, alignés dans le jardin, assis sur des chaises. Et là, c'est parti pour le K.O. Live aîné. C'est comme ça que ça s'appelle, vraiment. Et alors, il s'en sort pas mal, monsieur le maire. Alors, c'est vraiment lui qui chante. Hein.
Mais je ne peux pas m'expliquer comment ça m'est équipé. Enchanté.
Alors Sardou, évidemment, mais il nous a offert un festival de tubes K.O. Florilège.
Je parle à tout le du palpit.
Et chanson gay, quoi.
Ouais.
Il y
avait tous les standards.
C'est formidable. Alors les pensionnaires sont ravis, franchement, fallait oser. C'est un peu le coup de cœur de la semaine pour Karl Olive. Après, c'est pas le seul politique à s'être distingué micro en main, puisqu'en Pologne, c'est carrément le chef de l'État en personne qui s'est filmé en train de rapper.
Ciepły wieczór, bezcienności, prawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni, my.
Yo, il y a du flow. Hein. Et alors c'est pas un montage, c'est vraiment le président polonais Andrzej Duda qui rend hommage aux soignants comme ça et qui a fait un tabac sur les réseaux sociaux. En plus, comme il y a la prochaine présidentielle en août, ça lui permet aussi de parler aux jeunes, c'est malin. Enfin, et alors là, je vous préviens, je suis tombé de ma chaise en découvrant cette info. Le très respecté magazine de musique Rolling Stone. Hein. Pas n'importe quoi Rolling Stone, c'est pas OK Podium quoi. Bref, Rolling Stone donc, a dévoilé son classement des 3 meilleurs singles de tous les temps. Oui, de tous les temps. Et là, numéro 1, number 1, vous vous dites, les Beatles, les Stones.
Karl Olive.
Ça aurait pu. Eh ben non, c'est ça. Oh. Britney Spears. Baby One More Time. Alors, on l'aime bien, hein, Britney.
C'est une blague.
Pas de soucis. Mais pas de tous les temps pour Rolling Stones. Si, si. Deuxième c'est place. Blague. C'est votre génération, Stéphane. Les Jackson 5, vous l'avez, I Want You Back. Et pour compléter le podium, ça c'est plus Brice. Anarchy in the UK des Sex Pistols. Alors, complètement tourneboulé, un peu comme vous, hein, par cette info, je suis quand même allé sur le site internet du magazine américain pour essayer de comprendre. Et en fait, il y a un truc, traduction n'était pas complète. C'est le classement du meilleur premier single pour un groupe ou pour un chanteur. Et pas de tous les meilleurs singles de tous les temps, mais le premier single. Ça explique un peu mieux ce classement.
Enfin, déjà.
Voilà, mais quand même. Mais... Allez, vive la semaine prochaine quand même.
Cyprien signé tout en musique et ça fait du bien en ce vendredi soir. Karl Olive, il a cartonné tout au long du
confinement. C'est génial.
Parce qu'il faisait ça dans sa voiture avec des petites vidéos sur les réseaux sociaux.
Ouais, mais là, il est carrément allé aux Ursulines. Hein.
Une nouvelle carrière,
concert,
c'est pareil.
Hein.
Le
on l'embrasse,
de la
il nous écoute souvent d'ailleurs.
Très souvent, Cyprien signé.
On défait le monde sur RTL.
Allez, on y va les amis, 19h25, c'est la première grosse info de ce soir et ça concerne les vacances à l'étranger.
Et oui, parce que là, on ne sait plus où donner de la tête. On est perdu. D'un côté, ça fait 10 jours qu'on nous explique qu'il va falloir rester en France pour les vacances et de l'autre, que les États européens sont censés prendre une décision commune sur les frontières le 15 juin. Alors déjà, c'est compliqué. Ajoutez à cela, cette semaine, les Grecs et les Italiens qui disent qu'à partir de juillet, on pourra venir chez eux. Bon, alors déjà, Brice, pour être tout à fait clair, ça veut dire que si je veux, là, tout de suite, cet été, je peux prendre des billets pour la Grèce ou l'Italie.
Bah oui, à partir du 3 juin, à partir du moment où un pays ouvre ses frontières, que les vols commerciaux vers ce pays reprennent. On sait déjà qu'Air France et la compagnie grecque Aegean ont annoncé la reprise des vols Paris-Athènes dès le mois de juin. Mais rien ne vous empêche de partir.
Et je pourrais revenir ?
Alors, à moins que la situation sanitaire se dégrade énormément, vous savez, comme on l'a vu au début de la pandémie, ça pourrait compliquer un vol retour, ce serait un problème logistique. Mais en ce qui concerne l'autorisation de rentrer, c'est-à-dire de franchir la frontière, il n'y aura aucun problème, puisque le retour dans votre pays de résidence, on le sait déjà aujourd'hui et pendant toute la pandémie, c'était une dérogation pour franchir une frontière. Donc si c'est juste pour rentrer chez vous, personne ne peut vous l'interdire.
Et là, la France ne peut pas m'empêcher de revenir. De partir,
la France,
pardon, de partir.
Elle peut pas vous empêcher de partir. En fait, les autorités, elles donnent des recommandations. C'est-à-dire qu'elles essaient pas de vous dissuader de partir, mais si ça présente un risque d'aller dans certaines régions, elles vont vous le dire. C'est le rôle des autorités françaises, mais elles n'ont pas le pouvoir, si l'Italie ou la Grèce veut vous accueillir, de vous empêcher de quitter la France.
Et Brice, si je tombe malade en vacances à l'étranger?
Alors, il y a certaines compagnies d'assurance qui ont prévu la chose. C'est le cas de la Maif, par exemple, qui a inclus le rapatriement en cas de Covid dans la plupart de ses contrats. Europe Assistance, Alliance ont également mis en place des procédures de prise en charge. Mais attention, justement, avant de partir, je vous invite et j'invite tous les auditeurs à regarder précisément leur contrat d'assurance parce que cela dépend de votre contrat et ça dépend de votre assureur.
Mais alors, l'Italie et la Grèce qui annoncent la réouverture, ils ont le droit de le faire alors que les États européens étaient censés trouver un accord au 15 juin?
Alors, c'est pas très moral, mais oui, ils ont le droit de le faire parce que les frontières, le tourisme et les questions sanitaires, ce sont des compétences exclusives des États. C'est-à-dire que Bruxelles, l'Europe peut donner son avis, peut donner des recommandations, mais les États ne sont pas obligés de les suivre. Et on le voit bien, la France, notamment par la voix du secrétaire d'État aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, elle appelle à plus de coordination européenne parce que là, clairement, c'est le bazar. On voit bien que chaque pays jure le cœur sur la main que la coordination européenne, c'est important. Mais en fait, chacun décide dans son coin. Ça devient illisible pour les citoyens européens. Mais surtout vis-à-vis des autres États, ce que font l'Italie et la Grèce, c'est pas très loyal parce que certains attendent le 15 juin pour prendre une décision concertée et puis d'autres comme eux se déclarent avant, c'est pas très juste.
Et pour eux, ils le font alors?
Bah parce qu'ils sont dépendants du tourisme. Ils ont besoin financièrement que la saison, elle fonctionne. Parce que sans tourisme, pas de revenus et c'est pas possible. Regardez l'exemple de la Grèce. Le tourisme représente 20% de la richesse nationale. C'est un emploi sur 5 en Grèce. Donc, en ouvrant les frontières en premier, en annonçant tout au moins l'ouverture en premier avec les Italiens, ils espèrent bénéficier d'une sorte d'effet premier ouvert, premier servi. Ce qu'ils veulent, c'est attirer les touristes qui ont dû annuler leurs vacances ailleurs à cause du Covid. Donc, et puis la Grèce, elle a un autre atout, c'est que c'est un pays qui a été très peu touché par la maladie. Il y a eu très peu de morts, il y en a eu moins de 200. Donc en gros, la Grèce, ils disent, sans le dire, qu'ils ne veulent pas être victimes de la situation sanitaire en France, en Espagne ou en Italie. Donc ils essayent de se démarquer. Alors que l'Italie, qui a la même stratégie, elle va avoir du mal, parce que même s'ils rouvrent, l'afflux massif de touristes sera peut-être moins fort, moins important dans un pays qui a quand même, lui, été très touché.
Mais alors, Brice, pourquoi on entend « passer vos vacances en France » ?
Alors ça, c'est le discours, en effet, de notre secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne. Il y a deux raisons. D'abord, c'est un message de raison. Si demain, la situation sanitaire se dégrade à nouveau en Europe, bah, pour les autorités, et notamment pour le ministère des Affaires étrangères, moins il y aura de Français à l'étranger, plus la crise, une nouvelle deuxième vague, sera facile à gérer. C'est donc un appel à la vigilance. Mais l'autre raison, on le comprend, elle est aussi économique. Et c'est pour ça que la France n'est pas très contente sur ces annonces. C'est que la France, c'est aussi un pays très attractif touristiquement. Et le manque à gagner sera énorme. Donc c'est une façon de dire aux Français, restez en France, dépensez votre argent en France. Ça accélérera d'autant la reprise économique. Vous voyez, c'est de bonne guerre. C'est un peu diplomatique et touristique. Parce qu'une fois plus, chaque gouvernement, même en Europe, défend ses propres intérêts.
Les vacances à l'étranger. Première grosse info de ce vendredi soir. Brice Dugénie, restez bien là. On se retrouve dans une poignée de secondes avec la première info pour briller au dîner. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
Aldi.
On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Ouais, attention au nombre, évidemment. Oui. Première info pour briller ce soir. Attention, les amis. Il y a 15 jours, on avait un président du jury exceptionnel. Souvenez-vous, c'était Thomas Soto. Ce soir, une nouvelle fois, il y a un président du jury exceptionnel. C'est un autre grand nom de notre radio RTL. Donc, soyez bon.
On ne sait pas qui c'est.
Bah non, parce qu'on a beaucoup de grands noms, alors c'est pas facile de trouver.
Oh là là là.
Voilà, elle est corporate. Hein.
Ce sont Brice, Cyprien et Laurent qui s'y collent ce soir. Et Laurent qui commence.
Ouais, vous le savez, hein, pour se protéger les uns des autres, des postillons, éviter la propagation du virus, on porte un masque. Oui. Mais hormis votre voisin, qui a le débit des chutes du Niagara, connaissez-vous l'animal qui postillonne le plus, qui a l'habitude de cracher ?
Brice ?
Non, c'est le lama.
Oh non !
C'est
non,
le lama, c'est pas Brice Dugénie.
Oui, c'est le lama, oui.
Alors pourquoi le lama crache ? Alors vous savez, le capitaine Haddock, dans les aventures de Tintin, on sait quelque chose. Hein. Quand le lama fâché, lama craché. Eh oui, quand le lama est agacé, énervé, eh bien le lama rabat ses oreilles en arrière. Il fait claquer sa langue et ça active du coup la production de salive. Voilà, Cyprien, si vous avez la vidéo sur RTL.fr, le fait. Et si le lama continue de ne pas être content, le lama va gonfler les joues, il va cracher jusqu'à 3 mètres de distance. Donc bien respecter la distanciation physique. Premier crachat, attention, c'est un avertissement. Le deuxième est encore moins sympa, c'est une sorte de vomi acide nauséabond. Je vous épargne les détails quand même, à l'heure actuelle.
Bah, pas tellement, non.
Voilà. C'est un peu ça. Il faut savoir que les lamas se crachent dessus entre eux, principalement. Ils ne le font sur l'homme que si vraiment on les cherche pendant un moment. Vous voyez, ça, c'est un bon conseil du soir pour le président.
C'est pas très fréquent, pardon, mais.
Ouais, surtout le croiser des lamas.
J'ai croisé un lama en arrivant au dîner, là.
c'est arrivé dans le tramway à Bordeaux, il y a.
Absolument.
Ah ouais, c'est vrai, exact.
Merci, Céline.
C'est Laurent, donc, qui s'y colle pour la première
ce soir.
Mais ça va
devenir normal de croiser un lama.
Le président est à l'écoute jusqu'à 20h.
On défait le monde sur RTL.
C'est la deuxième grosse info de ce soir, ça concerne les prêts et c'est la dette pour les nuls. Hein.
Oui, alors pour surmonter cette crise, il pleut des plans de relance et des milliards. Vous l'entendez tous les jours dans les journaux, 1,35 milliard pour le tourisme, 32 millions pour la culture. La proposition de fonds de relance franco-allemande à 500 milliards d'euros. Du coup, la dette de la France devrait atteindre 115 ou 120% du produit intérieur brut en fin d'année, le fameux PIB, vous savez. Mais comment ça marche, hein ? D'où ils sortent ces sous, surtout Céline, qu'on nous répète depuis des lustres que l'État n'a plus d'argent, qu'il faut faire des économies. Comment c'est possible d'un coup de retrouver autant d'argent ?
Alors, d'abord, il faut savoir que ces prêts-là, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que les prêts des particuliers. Vous, Cyprien, par exemple, quand vous empruntez une somme, 100 000 euros...
Bah, personne ne prête.
Bon, alors, quand Stéphane, par exemple, emprunte 100 000 euros, il va rembourser cette somme plus les intérêts du prêt. Alors que l'État, lui, ne va rembourser que les intérêts. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette, comme l'explique Christopher Dembick, chef économiste pour Saxo Bank.
Un État ne rembourse jamais le montant qui a été emprunté. Si on est très concret, disons qu'un État emprunte effectivement 500 milliards, il ne va jamais rembourser ces 500 milliards, puisqu'il va émettre de nouveau de la dette pour couvrir ces 500 milliards. En fait, ce que rembourse réellement un État, ce sont les taux d'intérêt, donc le coût final est automatiquement beaucoup moindre.
Attendez, comment ça on rembourse jamais?
Disons que l'État...
Ça m'intéresse.
Oui, mais vous n'allez pas pouvoir en faire autant, Cyprien. L'État, lui, pour rembourser son prêt, c'est simple, il emprunte ailleurs. En fait, ça tourne sans cesse, c'est pour ça qu'on a cette expression du roulement de la dette.
D'accord, alors qui prête à l'État? Des banques comme la mienne, par exemple, ça prête?
Oui, ça peut, mais elles ne sont pas les seules. Ce sont aussi les assureurs, les fonds d'investissement, des fonds de pension étrangers, parfois. Vous savez, c'est les fonds vautours dont on avait beaucoup parlé au moment de la crise grecque. Mais aujourd'hui, l'acteur clé, c'est surtout la Banque Centrale Européenne.
Le rôle de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, il est très clair. C'est aider à la reprise économique en rachetant la dette des États afin justement que cette dette ne soit pas un frein à la reprise. Concrètement, l'État émet de la dette et on sait que la Banque Centrale Européenne va racheter une grande partie de cette dette qui est liée justement au coronavirus.
Alors la fameuse Banque Centrale Européenne, Céline, elle trouve son argent où?
Là c'est simple, elle le crée, ouais. Elle imprime de la monnaie, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et grâce à cet argent supplémentaire, elle peut racheter la dette des États. Alors bien sûr, je vous le disais, l'État français, quand il rembourse un prêt, il rembourse les intérêts. Donc la France va payer des intérêts à la BCE. Mais là, l'argent récolté par la Banque Centrale Européenne est ensuite reversé aux banques centrales des États. En clair, quand la France rembourse des intérêts à la BCE, l'argent revient à la Banque de France et donc indirectement à l'État français, comme l'explique Christopher Dembick.
Du fait du truchement lié au taux d'intérêt qui va être versé à la BCE et ensuite finalement reversé au budget de l'État, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, toute la dette qui est émise au titre du coronavirus, du fait de l'engagement de la Banque Centrale Européenne de racheter cette dette, ça ne coûte finalement rien immédiatement, bien sûr, à l'État français, mais aussi indirectement, ça ne nécessite pas d'augmenter les impôts pour couvrir ce supplément de dette. Il y a une forme d'argent magique dans la capacité, en tout cas, de la Banque Centrale Européenne à pouvoir intervenir de manière extrêmement importante.
C'est génial.
Mais Céline, pourquoi on ne le fait pas tout le temps alors?
Parce que la magie, Laurent, ça a ses limites. Et là, les limites, ce sont à la fois la confiance et l'inflation. Si la planche à billets tourne trop, que l'on crée trop de monnaie, l'euro va perdre de sa valeur. C'est l'inflation. Quand, avec la même somme, vous pouvez acheter de moins en moins de choses au fil des mois. En clair, vos 100 euros du mois de mars valent moins que vos 100 euros du mois de janvier. Pour éviter ça, il faut aussi maintenir la confiance dans la monnaie à ce niveau-là, à ce stade. Pas d'inquiétude, pour l'instant l'euro reste une monnaie puissante, de référence. D'après les experts, si la BCE le décidait, elle pourrait même créer demain 1000 milliards d'euros supplémentaires sans que ça provoque de graves crises économiques.
On a tout compris grâce à ça. C'était pas simple, mais bravo.
Il faut dire que là, François Langlais, il tremble. Là, il est pas bien. Il dit
François Langlais. Attention, François. Dans un appelle-nous instant, pour gagner au jeu.
La pâte à modeler, c'est cadeau. Dans un instant, la deuxième info pour briller. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Et c'est la deuxième ce soir, c'est avec Brice. Tout à l'heure, c'était Laurent et son lama qui crache. Brice, c'est quoi? C'est tennis, c'est ça?
Oui, je vais vous parler tennis parce qu'en ce moment, on devrait entendre ça. Les qualifications du tournoi de Roland-Garros auraient dû débuter dans le temple français de la petite balle jaune. Tiens d'ailleurs, pourquoi jaune la balle de tennis? Alors taisez-vous Stéphane, parce que je sais que vous êtes un spécialiste et sûrement que vous avez la réponse. En fait, initialement...
Ah bon?
Allez.
Ouais. Non, chut. Initialement, la balle de tennis, elle était blanche. Et dans les années 70, des recherches sont menées pour savoir de quelle couleur il faudrait que soit cette balle pour qu'elle soit plus visible. Non pas pour les joueurs, mais pour... les téléspectateurs. En fait, cette balle blanche, elle ne se voit pas bien à la télévision qui retransmet à l'époque de plus en plus de tennis. Et il est donc défini que la couleur qui se voit le mieux, c'est le jaune, ce jaune fluorescent appelé en anglais « optic yellow », le jaune optique. Et c'est en 1972 qu'arrivent donc ces nouvelles balles sur le circuit. C'est donc pour la télévision que la balle de tennis est devenue jaune.
Mais c'est pareil avec les ballons de foot quand il neige, on les change de couleur.
Oui,
aussi.
D'accord, mais enfin le tennis, c'est pas quand il neige, Céline, ça vous a pas échappé.
Mais non, je sais, mais.
Très bien. Non,
mais
en plus, le foot, ça marche pas du tout, c'est quand il neige, mais c'est pas pour la télé, c'est pour que les joueurs.
Mais c'est pour les joueurs.
Bah, aussi pour la télé.
Aussi pour la télé,
bon, d'accord, mais bon, pour les joueurs.
Non, mais c'est bien tenté, Céline, d'essayer de me plomber une fois de plus, c'est classique. Oui, merci, Cyprien.
C'est vraiment un mauvais esprit.
Le jury. Et en plus, vous ne participez pas ce soir.
Ouais, elle a peut-être choisi son gagnant.
Le grand président du jury, bien sûr, à l'écoute avec nous jusqu'à 20h. Il est 19h42.
RTL.
Le loser de la semaine.
Le grand perdant de la semaine, celui qui aurait préféré passer incognito, passer entre les gouttes, mais que l'impitoyable Céline rattrape par le col, un peu comme Brice avec son info. Et ce soir, c'est une grande perdante, puisqu'il s'agit de la ville de Lyon.
Oui, la ville lyonnaise qui, dans un élan de reconnaissance, a voulu dire merci, merci à son personnel municipal et qui a donc publié un tweet plein d'amour. Ça pourrait presque être l'instant mignon au départ pour remercier les personnels soignants, les commerçants, les entreprises ou alors les agents municipaux qui sont restés mobilisés pendant cette crise du coronavirus. C'est beau et pour être vraiment sympa, la ville avait accompagné ce tweet d'un petit clip vidéo. Là, vous entendez la musique, mignonne, hein, elle aussi. Le problème, comme l'a relevé Lyon Max, c'est que les personnes à l'honneur dans ce clip ne sont pas du tout lyonnaises. La ville est allée piocher dans des banques d'images avec, par exemple, cette photo d'une professeure latino-américaine heureuse à l'école, dit la légende de Getty Images. La photo en petit format est accessible à 50 euros. La ville de Lyon a quand même fait quelque chose. Elle a pris soin de lui ajouter un masque. Et d'ailleurs, si vous faites pause au bon moment sur le clip, vous verrez que le photomontage n'est pas très très discret. Le chauffeur routier, c'est pareil. Le chirurgien, lui, en réalité, est turc. Bref, pour une ville qui voulait remercier son personnel municipal, c'est quand même dommage d'être allé chercher des portraits aussi loin.
C'est terrible, parce qu'il suffit d'aller faire trois photos, quoi.
Ça vaut bien le titre de loser de la semaine, ça y a pas de doute, évidemment. Bravo, Céline, 19h44.
RTL Soir, on défait le monde. C'est l'heure du jeu.
Mais quel cadeau ce soir. Ma fille rêverait de l'avoir puisqu'on vous offre un magnifique kit de pâte à modeler.
On sent qu'il va essayer de partir avec.
Non, je peux pas. C'est le kit, le royaume des glaces de Play-Doh. Et alors dans le kit, évidemment, vous avez tout le matos, les moules, les accessoires pour faire des glaces à l'italienne, vous avez tout. Et puis alors, 6 pots de pâte à modeler également, de couleurs différentes. Alors si vous avez des enfants, vous en connaissez, c'est pour vous. Alors avant, j'adore cette formule. Il va falloir répondre à la question du soir, attention. Brice l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. Comment s'appelle le secrétaire d'État en charge du tourisme en France? Est-ce que c'est Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Baptiste Lecuré ou Jean-Baptiste Poquelin dit Molière? Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Baptiste Lecuré ou Jean-Baptiste Poquelin dit Molière? Vous avez les bonnes réponses? 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants, puis on passera un petit coup de fil au vainqueur en toute fin d'émission.
Oh, dans la série des questions nulles, elle est pas mal. Est
bien, on a essayé de trouver mieux, on n'a pas trouvé. Hein.
Il y a du boulot derrière tout ça, ah bah c'est oui. Ça que vous voulez me dire.
J'ai moins 5 minutes au téléphone avec Brice.
Oh mon Dieu, il est 8h moins le quart.
On défait le monde sur RTL.
C'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle quasiment plus. Et ce soir, Cyprien, une mystérieuse disparition.
Ouais, c'était il y a 6 ans, le 8 mars 2014. Le vol de la Malaysian Airlines, le MH370, décolle de Kuala Lumpur direction Pékin avec 239 personnes à son bord. Le Boeing 777 n'arrivera jamais à destination. L'avion s'est comme volatilisé.
La disparition du Boeing est un mystère aéronautique sans précédent.
Le mystère de la disparition du vol MH370.
En réalité, on ne possède pratiquement aucun élément concret. Suicide, acte terroriste, le FBI et Interpol sont dans une impasse. On ne connaîtra peut-être jamais la vérité.
Depuis, les pistes les plus folles ont été évoquées. L'avion serait posé sur une île déserte, désintégré en plein vol. Bon, ça, c'était il y a 6 ans, Brice. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
Non, on ne sait toujours pas. En fait, on ne sait rien sur la disparition de cet avion. Alors, il y a une équipe internationale d'enquêteurs qui était menée par la Malaisie qui a rendu un dernier rapport. Rapport final, c'était en juillet 2018, dans lequel il est écrit « Nous sommes incapables d'établir les raisons de la disparition du vol MH370. Nous sommes incapables de le localiser. Cela ne sera possible que si l'épave est retrouvée un jour. Et aujourd'hui, rien n'a été retrouvé, ou quasiment rien. »
Rien trouvé. Pas de débris de l'avion, pas de boîte noire.
Alors, 18 mois après, quelques débris ont été retrouvés sur des bancs de sable au large de l'île de la Réunion ou au large de Madagascar fin 2015, début 2016, des petits morceaux portés par les courants, mais rien de probant, en tout cas aucun débris flottant, aucun corps n'a été retrouvé. Et selon certaines familles de victimes, l'enquête et les recherches y sont un peu pour quelque chose, elles n'auraient pas été menées correctement.
Et 6 ans après, il n'y a quand même pas un scénario privilégié, quelque chose?
Non. Et en fait, aucune piste n'est privilégiée. Le détournement terroriste, le suicide du pilote, le problème technique ou météorologique, tous les scénarios ont été envisagés, mais aucun ne correspond aux témoignages, aux données récoltées par les capteurs, les satellites, les outils de communication. Et face à ce mystère, eh bien, il y a des nouvelles théories qui émergent. Ghislain Ouattrelot, il a perdu sa femme et ses deux fils dans cette disparition. Lui, il évoque carrément une affaire d'État. C'est ce qu'il expliquait il y a quelques semaines au micro de Jacques Pradel dans l'heure du crime sur RTL.
Vraisemblablement, il y a quelque chose ou quelqu'un dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. Nous avons aujourd'hui la conviction que les services secrets américains sont dans l'avion pour le faire poser quelque part, prendre ce qu'il faut dans l'avion et le refaire décoller et tout va bien. Le seul problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, ils sont obligés d'abattre l'avion. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé.
Un scénario digne d'un film, mais qui expliquerait, selon lui, toutes les incohérences, et il y en a beaucoup dans ce dossier. Alors il garde espoir qu'un jour, quelqu'un puisse lui dire la vérité.
C'est tellement gros qu'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est des contrôleurs aériens, c'est des militaires, c'est des gens dans les gouvernements, c'est des gens dans les services secrets, c'est des gens dans les armées qui ont vu quelque chose ce soir-là. Et petit à petit, ils vont partir à la retraite, ils vont nous envoyer des messages. Donc aujourd'hui, c'est aussi là-dessus qu'on travaille.
Voilà, selon lui, la raison d'État permettrait peut-être d'expliquer pourquoi dans les premières heures, les premiers jours, les recherches n'ont pas été menées au bon endroit, alors que les autorités malaisiennes avaient les informations. Et puis il y a d'autres incohérences, d'autres incompétences. Alors certains observateurs qui ont enquêté jugent cette thèse peu probable, voire farfelue, mais pour l'instant, rien ne permet de dire qu'elle est plus ou moins plausible que les autres.
Et donc Brice, c'est fini aujourd'hui, là, plus personne ne cherche ?
Eh bien si, il y a encore une enquête en cours dans un seul pays. La France, deux juges d'instruction travaillent encore sur la disparition de ce Boeing 777. Ils se sont rendus en Malaisie à plusieurs reprises. Ils ont obtenu l'année dernière de haute lutte un rendez-vous avec les représentants du constructeur Boeing pour récolter les informations techniques. Boeing d'ailleurs ne s'est pas montré très coopératif hein, au nom du secret industriel, mais finalement les enquêteurs ont signé un accord de confidentialité. Ils ont obtenu le droit de consulter des documents mais interdit de les livrer au dossier. Cela ne doit être étudié que dans le secret du bureau. Voilà, c'est très difficile d'obtenir ce genre de documents. Ça, c'était l'année dernière. Tous ces documents sont en cours d'analyse. Cela pourrait d'ailleurs aboutir dans les semaines qui viennent à de nouvelles conclusions, de nouveaux éléments sur cette enquête. Et puis depuis des mois, il y a un autre volet. C'est le volet américain, puisque le FBI a aussi enquêté sur la disparition de cet avion. Et donc les magistrats français aimeraient rencontrer les enquêteurs américains. Ils n'y sont pas opposés, les Américains. Mais pour l'instant, ils n'ont pas donné suite à la demande de rendez-vous.
C'est dingue. Hein.
Six ans, c'est gros, Boeing. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. On l'a jamais retrouvé.
Le billet retour signé Brice du génie dans On défait le monde. C'est le numéro 37. Nous sommes vendredi soir, le 22 mai de cette année 2020. Vos commentaires, vos réactions, compte Twitter, page Facebook et Cyprien Sini. Dans un instant pour la troisième info pour briller. À tout de suite.
Wouh ! On défait le monde sur RTL. .fr. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Allez Cyprien, on vous écoute, c'est la troisième de ce soir.
Elle est là, l'info qui gagne. Cette semaine, on a fêté les 40 ans. On a fêté les 40 ans d'un des jeux les plus mythiques de l'histoire du jeu vidéo.
Mario Bros.
Non. Ça vous parle, générique ? C'est Pac-Man, le petit rond jaune coincé dans un labyrinthe qui essaie d'échapper aux fantômes en mangeant des cookies. Un jeu qui a connu un tel succès. Bah ouais, c'est un peu ça. Qu'on a même eu droit au dessin animé.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man.
Générique chanté par William L'Énergie à l'époque, et oui. Bref, tout le monde connaît Pac-Man, mais vous savez pourquoi il a cette forme ronde avec une entaille pour la bouche ?
Pas encore.
Un cookie. Ouais. Non. Eh bien, son créateur japonais, Toru Iwatani, a expliqué, je cite, qu'il n'avait plus d'idée. Et d'un coup, c'est une pizza à laquelle il manquait une part qui l'a inspiré. Eh ouais. Le gars ne savait pas comment dessiner son héros. Il est allé manger une pizza et d'un coup, bim, après la première part, l'inspiration, si Pac-Man est Pac-Man, c'est grâce à une vieille pizza. C'est quand même fascinant. Hein.
Ouais, c'est fascinant. Si ça gagne avec ça, pardon, c'est plus.
C'est fascinant.
Ah bah non, mais si ça gagne, je quitte l'émission. Voilà, je
arrêtez d'influencer le jury.
On influence rien du tout.
Pac-Man, il a une tête de Pac-Man à cause d'une pizza.
Pas, on a compris, on a compris.
Le verdict avec le président du jury, c'est dans moins de 5 minutes, les amis.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
Ouais. Aussi mignon qu'un koala en train de manger une feuille d'eucalyptus. C'est le moment rassurant de l'émission. Celui qui vous rappelle qu'il n'y a pas que des problèmes et des soucis. Céline, détendez-nous un peu le cerveau.
On va repartir en musique, vous en avez mis beaucoup au début d'émission dans votre surf, Cyprien. Oui. On y retourne et cette fois au Pays de Galles avec un petit garçon de 8 ans qui est en train de devenir une véritable star. Harrison, c'est son nom, a décidé de se produire tous les jeudis soirs sur le trottoir devant chez lui en imitant Freddie Mercury, et vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, les vidéos circulent, chanter avec son débardeur blanc, son jean, ses cheveux en arrière et même sa fausse moustache, la tenue du vrai Freddie Mercury, donc lors de son concert Live Aid en 85. Et quand vous l'écoutez, c'est aussi assez probant. Tout. Il joue avec le pied du micro aussi, vraiment tout y est. Et ça ravit apparemment ses voisins de Konaskei qui viennent l'écouter et l'applaudir donc chaque semaine le jeudi soir.
Il a quel âge ? 8 ans. Vous avez dit. Ouais, c'est mignon.
C'est signé Céline.
Ah, bah, s'il avait eu 12 ans, ça aurait pas été mignon.
Bah, ça aurait pas eu. Non, 12 ans, il aurait
J'espère qu'à 12 ans, il chanterait mieux que ça. Ah, oui, bien sûr, je suis d'accord. Totalement d'accord. Bah oui, c'est un garçon, il chante quand même. Petit garçon, il chante mal.
19h53.
Bonjour, c'est Pascal Pro. Le chronomètre.
Ah, lui aussi, il chante mal.
Quelque chose à dire. 30 de 10.
Parfois, il parle mal.
Pascal Pro dans le chronomètre. Alors, c'est le baromètre avec du Pascal Pro dedans, le palmarès de vos appels. Au 30 de 10, Laurent, président du jury du chronomètre, évidemment.
Ah
bah, bah oui, c'est le bras droit de Pascal Pro, il compte les amis.
Membre du comité.
Voilà, membre du comité Prodia. Alors, quels sont les sujets qui ont le plus fait appeler selon vous ?
Les plages, évidemment,
ouais.
Les plages.
Ah bah oui.
Les plages,
ouais.
Ouais. Bien vu, fermeture des plages dans le Morbihan, voilà, à cause du non-respect des consignes de sécurité, la distanciation physique, des incivilités. Alors, si l'on rajoute l'intervention de la police mercredi soir avec l'évacuation de l'esplanade des Invalides, on s'est posé cette question avec Pascal dans la semaine. Le français est-il raisonnable ? Eh bah, ben, la vie d'Alain, chauffeur routier.
Le français ne comprend pas que l'intérêt du pays, le leur, l'intérêt de leur famille, leur vie est en danger. Il faudrait imposer. Oui, l'exécutif est infantilisant, dans le sens où un enfant, eh ben, ma foi, une fois qu'il a dit non, ben, on va le laisser tranquille, on va passer à autre chose. Et le français comprend difficilement. On croit que ça arrive toujours aux autres et jamais à soi,
eh ben, merci.
Malheureusement. Mmh.
Ouais. Autre sujet.
Français à l'heure et pas
autre sujet, à votre avis, qui a bien fonctionné cette semaine
au 32-10. Qu'est-ce qui a marché au 32-10
aujourd'hui, notamment.
Aujourd'hui.
Ah, voilà, bah, gros succès toute la semaine.
Les municipales.
Bah ouais, bravo Céline Landreau. La date du second tour des élections municipales, ça sera le 28 juin. Il y a un sujet en début de semaine aussi qui vous a beaucoup fait réagir au 32-10.
Bah, il y a eu le décès de Michel Piccoli.
Ouais, bien vu. Disparition d'un grand du cinéma, un monstre sacré à l'écran. Et vous lui avez rendu hommage dans l'émission.
Si aujourd'hui on peut écrire le mot cinéma en majuscule, eh bien c'est grâce à des hommes comme Michel Piccoli. Et
Piccoli, c'est un peu de ma jeunesse qui s'en va.
Une impression très forte en passant à côté de lui, comme quand on passe à côté d'un monument historique.
Pour moi, c'est un professionnel tout à fait exemplaire, parce que quand on le voyait à l'écran, on pouvait l'aimer, on pouvait pleurer, on pouvait le détester.
Il y a eu beaucoup d'appels pour le saluer.
Oui,
pour
beaucoup d'appels. D'ailleurs, l'émission de lundi était consacrée au décès de Michel Piccoli.
Merci Laurent, c'est du lundi au vendredi, c'est au 32-10, les appels bien sûr pour dialoguer avec Pascal Pro. Alors d'abord, premier résultat du jeu pour la pâte à modeler.
Ah ben, Olivier, 48 ans. Alors j'imagine que c'est pas pour lui. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous connaissez des enfants alors, apparemment.
Pardon ?
Vous connaissez des enfants si vous avez joué pour gagner de la pâte à modeler ?
Tout à fait, j'ai des enfants, oui.
Ah, formidable. Bon alors, voilà, oui. Vous avez gagné un magnifique kit pâte à modeler pour faire des glaces. Vous nous appelez d'où, Olivier ?
Un petit village à côté de Rennes. J'en rêvais du kit de pâte à modeler, c'est pour ça que j'ai appelé.
À 48 ans, on a le droit de faire de la pâte à modeler. Hein.
Franchement, entre nous, vous avez le droit de le garder pour vous, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas le donner à vos enfants, on ne leur dira rien.
On vous salue, Olivier. Merci de votre fidélité. Ça va arriver à la maison rapidement, près de Rennes, c'est promis. Merci d'être là et prochain jeu, ce sera le week-end prochain. La fin du suspense, verdict.
Allez.
Pour le grand président du jury de ce soir, on va connaître son choix pour les infos, pour briller au dîner. Tiens, je vais vous aider avec ça, tiens.
RTL, il possède 1 million de
dollars. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah bon ?
Oui. Oh, mais bon, mais vous jouez pas. Arrêtez.
Ouais, bon anniversaire quand même, Georges.
Ah, mais voilà.
Georges Lang qui est en ligne avec nous et on le remercie. Bonsoir, Georges.
Bonsoir à tous. C'était
bonsoir,
Georges. Vous m'entendez ?
Oh, très bien, bien. Très bien.
Parfait, parce que je suis au bout du monde, là. Hein. Je suis à Luxembourg.
Bon, Georges, rapidement, quel est votre choix pour les trois infos briller au dîner ce soir ? Il y avait le lama qui crache avec Laurent, il y avait le tennis et la couleur de la petite balle de Brice, et puis il y avait la pizza Pac-Man de Cyprien. On vous écoute.
Allez, Georges. Allez.
Alors moi, j'opte pour la balle jaune, parce que je me demandais toujours, c'est une question que je me posais depuis très longtemps, pourquoi on avait changé cette couleur ? Et là, maintenant, je sais que depuis 72, c'est grâce à la optique yellow ball que l'on voit beaucoup mieux.
Et ben voilà,
ça c'est un président qui a bien écouté.
Des trucs comme ça.
Voilà. Il y a un dîner au Luxembourg où quelqu'un va briller.
Oui, voilà. Ben, écoutez, moi, je vais me remettre au tennis, rien que pour ça. Je remercie. C'est qui? C'est Brice Dugénet qui avait lancé
ouais,
ça.
C'est hein, bien sûr.
Georges, on vous souhaite.
Merci, Georges.
Non, j'ai trouvé qu'il était très, très, très sympa ce soir, Brice. Il était très optimiste pour tout ce qu'il racontait. Donc, bravo. J'ai fait le bon. Ouais.
Bravo.
Et voilà.
On s'incline dans
47 ans d'émission, Georges Lang, ce soir. Ça se fête, évidemment. Comment ça va se passer rapidement?
Ah ben, ça va se passer tout simplement puisque je retourne aux sources. J'ai commencé l'émission à Luxembourg tout seul dans un studio en 1973, 47 ans plus tard, dix causes de confinement. Je me retrouve encore à Luxembourg et ce soir tout seul, je vais un peu parler de tous ces auditeurs qui m'envoient des mails et qui m'expliquent dans quelles conditions ils écoutent l'émission depuis parfois peu de temps, mais parfois très longtemps.
Ouais, c'est lui qui fait tout, Georges Lang, pour son émission. C'est à partir de 22h, c'est ça, jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Hein. À 23h, les nocturnes, à 22h50. On commence avec une collection teintée Beach Party, puisqu'on est quand même en vacances, même s'il y a du confinement dans l'air. Et si on ne peut pas faire beaucoup de kilomètres, on va rêver. Et à 23h et jusqu'à 1h du matin, il y a une nocturne spéciale.
Voilà, avec les Rolling Stones, évidemment, ce soir.
Bien sûr, bien évidemment.
De toute façon, si vous ne pouvez pas partir, fermez les yeux, vous écoutez George Lang, la Beach Party, vous êtes à Los Angeles.
À ce soir, Georges, ce sera un plaisir. Merci d'être passé par chez nous.
On s'embrasse tous.
Salut, Georges.
Salut, Georges.
Et on revient vendredi prochain. Bonne soirée, tout le monde. Les infos arrivent à tout de suite.
Salut à tous.
Ciao.